Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Enzo.
Salut Bart, tu vas bien?
Ouais, super, et toi?
Ça va nickel.
Comment ça va en cette période de confinement? C'est pas trop dur de ton côté?
Non, ça va, franchement, je suis confiné à Paris, donc moi j'habite à Nation avec ma copine et ma petite fille de 7 mois, bientôt 8. À cet âge-là, ça bouge beaucoup, donc ouais. j'ai pas le temps de m'ennuyer.
Ouais, c'est clair, tu m'étonnes, ouais. Mais elle doit avoir envie de sortir, elle doit être très dynamique, donc ça doit pas être évident à gérer aussi, j'imagine. Et c'est marrant que tu sois à Nation parce que j'y ai habité 10 ans, donc je connais bien le quartier, je visualise.
Et, ah ouais, ok, je savais pas.
Toi, ça fait longtemps que tu habites dans ce coin-là?
En fait, j'habitais à Buzinval.
D'accord.
Il y a un an, et en fait, on a déménagé pour avoir une chambre en plus, du coup. Et on aimait tellement le quartier qu'on a décidé de déménager à 300 mètres de là. Donc du coup, là, je suis vraiment à 100 mètres de la place de la Nation. Je vois la place de la Nation de mon appartement.
Ok, d'accord. Bah écoute, moi pour la petite info, j'habitais en face de la salle d'escalade Arkose
D'accord.
et juste à côté du bar Les Pères Populaires,
Ouais,
qui est un...
le bar emblématique du quartier, ouais. Je vois très bien.
Exactement. Voilà.
Ben moi, j'habitais à, allez, à 50 mètres du bar pop.
Ok, d'accord, bah on
Des
est
pères pop.
voisins. Ok, trop
Ouais.
marrant, on apprend qu'on est voisins en live, c'est super cool. Mais écoute, comme je te le disais à l'instant, la tradition sur le podcast, c'est de remonter un petit peu par ton enfance, savoir qui tu étais quand tu étais plus jeune. Et du coup, j'aime bien
D'accord.
poser la première question de savoir quels sont tes premiers souvenirs de sport.
Alors, mon premier souvenir de sport, c'est quand j'habitais en Guyane. C'était en 1994, donc j'avais 3 ans. C'est
Ouais.
la Coupe du monde de football.
Ok.
Et je me souviens, c'était Roberto Di Baggio qui loupe son pénalty pendant la séance de tir au but
Face
de
au
la finale de la Coupe
Brésil.
du monde, ouais, face au Brésil,
Ouais.
exactement.
Ouais, moment mythique.
Ouais.
Il la met sur la barre en plus, je crois.
Ouais, je crois qu'il a mis sur la barre. Et à ce moment-là, je crois que en fait, le footballeur qui m'avait le plus marqué, c'était Romario.
Ouais. Ouais, c'était bah, la star de cette compétition-là, hein.
Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est mon père qui avait conservé la une de l'équipe. Ouais, c'était de l'équipe où, en fait, il y avait Romario et c'est encore affiché dans ma chambre en Guadeloupe jusqu'à aujourd'hui.
Oh, génial, génial. Du coup, tu avais des parents fans, enfin peut-être un père plutôt fan de foot.
Ouais, c'est ça, mon père fan de sport en général.
Ok, d'accord. Ok. Mais du coup, j'ai lu dans ton parcours que tu avais des parents guadeloupéens, mais que tu étais né en Guyane. Mais du coup, je rapporte un peu les choses à moi parce que encore une fois, parce que ma petite amie est guyanaise. Et
D'accord.
du coup, je voulais savoir un peu quels souvenirs tu gardais de la Guyane et est-ce que tu y étais retourné depuis?
Honnêtement, j'ai pas beaucoup de souvenirs de la Guyane.
Ouais.
En fait, j'ai vécu de 0 à 3 ans.
Ouais.
Et après, entre 3 et 5 ans, on a déménagé à Saint-Martin,
Ouais.
qui est aussi une île des petites Antilles. Et en fait, c'est une fois que j'ai eu 5 ans qu'on est arrivé en Guadeloupe. Parce que, en fait, mes parents sont professeurs des écoles. Ils ont fait leurs études à Bordeaux. Et en fait, pour revenir de France hexagonale en Guadeloupe, c'est assez compliqué parce que bah, y a beaucoup de personnes qui veulent bosser là-bas. On se demande pourquoi. Et
Ouais.
du coup, ils ont dû passer par d'abord la Guyane, ensuite par Saint-Martin, et une fois à Saint-Martin, on a pu revenir. Ils ont pu avoir une mutation en Guadeloupe tous les deux.
D'accord, ok, génial.
Du coup, la Guyane, j'en ai pas grand souvenir à part des photos.
Ouais, mais du coup, j'imagine beaucoup plus de souvenirs en Guadeloupe. Est-ce que
Ouais.
c'est une culture qui t'accompagne encore au quotidien?
Ah, mais totalement. J'ai grandi en Guadeloupe, en fait. Du coup, de mes Déjà, quand on habitait en Guyane et à Saint-Martin, on y allait régulièrement. En fait, mes deux parents sont guadeloupéens
Ouais.
et du coup, toute ma famille est guadeloupéenne. Et à partir de 5 ans jusqu'à mes 16 ans, j'ai vécu et grandi en Guadeloupe. Donc, ouais, c'est une culture qui m'accompagne au quotidien.
Ouais. Et toi d'ailleurs, qui vient d'avoir une petite fille, on reparlera un petit peu de ta paternité parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant et tu le traites bien en tout cas sur tes réseaux sociaux.
Ouais.
Le fait que tu aies une petite fille, ça t'a pas donné envie de rentrer et de lui proposer aussi une enfance sûrement un petit peu plus antillaise que parisienne?
En fait, la question ne se pose même pas parce que j'ai 28 ans,
Ouais.
je suis encore très actif dans ma carrière. Je peux pas m'entraîner en Guadeloupe, en tout cas, enfin l'INSEP, c'est en France, c'est là où il y a la meilleure opposition. Voilà, c'est quelque chose qui était même pas envisageable. Mais en revanche, je veux que ma fille sache d'où elle vient, qu'elle connaisse cette grande partie de cette culture, en fait, qui est une partie d'elle-même, en fait. Et
Ouais.
en fait, à la base, je voulais rentrer en septembre, bah, pour déjà la présenter à toute la famille, et puis qu'elle voit où est-ce que son père a grandi, voilà, qu'elle connaisse la mer, le soleil, enfin,
Ouais.
toute la culture guadeloupéenne, en fait. Et bah, avec le report des Jeux, on verra quand est-ce que je pourrais rentrer. Mais c'est sûr que je voudrais rentrer au moins une fois par an, histoire que ma fille connaisse et soit familière avec cette culture.
Ok, d'accord, génial. Bah écoute, moi je pense que c'est hyper important et puis c'est tellement une île paradisiaque, ça serait dommage de l'en priver, quoi.
Ouais, c'est clair.
Et j'ai lu que tu avais commencé l'escrime à 5 ans et que c'était la même année que l'année où Laura Flessel était championne olympique.
Ouais,
Est-ce
c'est
que
ça.
tu as vu ces jeux? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué ou est-ce que tu es tombé dans l'escrime comme complètement par hasard?
Ah bah en fait, c'est totalement Laura Flessel qui m'a fait commencer l'escrime.
Ok, génial.
Voilà, en fait, c'était en 1996, donc elle gagne les Jeux Olympiques à l'épée. Et bah, les Guadeloupéennes, Laura Flessel, du coup, ils en ont énormément parlé en Guadeloupe.
Ouais.
Après, j'arrive pas à me souvenir si j'ai vu la finale en direct ou si j'ai vu les retransmissions. En tout cas, j'ai vu sa finale et en fait, j'ai trouvé ça vachement cool. Après, quand on a 5 ans. Enfin, quand t'as 5 ans, qu'on te dit, ah bah tiens, tu vas aller jouer à essayer de toucher ton copain avec une épée, bah, c'est sûr que ça fait rêver en fait les films de taper d'épée, etc.
Ouais.
Donc en fait, j'ai dit à mes parents, je faisais déjà du tennis, et j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter le tennis pour faire de l'escrime.
OK.
Donc ils se sont renseignés sur le club le plus proche, il était à 20-25 minutes de la maison, et ils m'ont tout de suite amené faire de l'escrime.
Ah, génial, génial. Et du coup, tu te souviens de tes premières parades, on va dire?
Franchement, à 5 ans, on se souvient pas de grand-chose. J'ai
Ouais, c'est
juste des
vrai.
flashs, en fait, des
Ouais.
flashs de la première salle dans laquelle j'ai pu pratiquer. Mais c'est tout, honnêtement, c'est très flou.
Ouais, ok. Pourtant, j'ai vu que très vite, t'as été plusieurs fois champion de Guadeloupe, c'est ça?
Ouais.
Ouais. Du coup,
Bah.
très vite, t'as tout raflé.
Oui, en fait, bah, j'ai pris goût très rapidement. Je crois que j'ai commencé mes compétitions une année après, donc à 6 ans. Et ben, j'ai eu de la chance de tout de suite commencer à gagner. Mais ouais, et puis c'est sûr que ouais, quand on gagne, on y prend goût,
Bien sûr, ben c'est clair que c'est une drogue hein, la victoire.
hein. Ouais, c'est clair, exactement.
Et du coup, à quel moment tu décides un petit peu d'en faire peut-être pas une carrière pro, mais en tout cas de passer le niveau au-dessus? Je sais que c'est un peu difficile. Bah, c'est vrai que pour les enfants qui sont nés outre-mer et qui ont des super qualités, il n'y a pas forcément les infrastructures du coup dans les Antilles pour s'entraîner. À quel moment tu as dû faire le choix de rejoindre la métropole et est-ce que c'était pas un choix qui était difficile pour toi?
Alors en fait c'est un hasard,
Ok.
c'est-à-dire que toute mon enfance, je gagnais beaucoup, mais c'est faux de dire que je raflais tout. En fait, je sais pas si tu connais Jean-Paul Elissé,
Si, bien
c'est
sûr.
un escrimeur avec lequel on a été, bah, c'est un Guadeloupéen que je connais depuis que j'ai 5 ans,
Ouais.
et ensemble on a décroché la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.
Ouais.
Et en fait, moi, j'ai grandi entre guillemets dans l'ombre de Jean-Paul, c'est-à-dire que quand on était petit, c'est Jean-Paul qui gagnait tout. Et vu que j'avais un an de moins que lui, en fait, je gagnais tout quand j'étais pas dans sa catégorie.
Je vois très
Voilà, c'est
bien.
ça. Et
Ok.
du coup, j'étais le seul qui arrivait à le battre, mais j'arrivais à le battre peut-être une fois sur 10 compétitions. En gros, je me souviens très bien que j'arrivais à le battre peut-être une fois par saison quand j'étais dans sa catégorie.
D'accord, ok,
Donc,
ouais.
je gagnais tout, mais voilà, une année sur deux. Et du coup, en fait, c'est quand j'avais. Et Jean-Paul, en fait, il a très vite percé sur le plan international. Il a gagné des épreuves, gagné ou fait des podiums sur des épreuves cadets quand il était minime. Donc,
Ouais.
il avait 13 ans. Il a fait les championnats du monde junior. Donc, ouais, il affrontait des mecs qui avaient entre 17 et 20 ans. Enfin, franchement, c'était un truc de malade. Et moi, alors que je peinais un peu plus, j'allais sur les épreuves internationales cadettes.
Ouais.
Et ça faisait des résultats moyens. J'étais dans. On était quoi? On était 12 ou une vingtaine, je sais plus, une vingtaine de Français, je crois. Et j'étais, ouais, dans les 10 premiers Français. Je faisais entre la 30e et la 60e place mondiale.
D'accord.
Sur 200 participants, ce qui n'est pas ridicule, hein, mais voilà,
Ouais.
j'étais pas du tout dans le top 3, top 4, top 5. Voilà.
Ok,
Et en
d'accord.
fait, ouais, et en fait je me souviendrai toujours, il y avait Jean-Paul qui était parti au championnat du monde cadet, donc. Et là, son entraîneur était revenu. Et là, j'étais sur mon lit, j'étais en train de bouquiner. Et en fait, j'avais pris la décision d'arrêter de faire les compétitions internationales et même nationales, en fait, parce que. À l'époque, c'était enfin, c'est pas à l'époque, ouais, c'était à l'époque, c'était mes parents qui payaient mes compétitions. Donc,
Ok.
j'étais en première S, mes parents payaient mes compétitions, donc ça coûtait
Ouais.
cher. Parce
Ouais.
qu'à chaque fois, il fallait aller en France, en Allemagne. Voilà, chaque fois, c'était le prix d'un billet, l'hôtel, etc. Ça coûtait hyper cher. Moi, mon club en Guadeloupe n'avait pas les moyens de me payer les compétitions. Et je voyais que voilà, j'avais un bon niveau, ben, mon niveau moyen. Je me disais, bon, ben, franchement, ça sert à rien de faire dépenser des fortunes à mes parents plutôt qu'ils gardent leur argent pour me faire faire des études quand j'en aurais besoin, tu vois.
Ok.
Et en fait, et ça aussi, enfin, ça plus le fait aussi que les courses a commencé à devenir un peu compliquées parce que quand je partais faire des compétitions, les gamins de France hexagonale, ils partaient un week-end, mais moi, ça me faisait partir le mercredi, j'arrivais du coup le jeudi
Ouais.
et je revenais le mardi matin en cours, donc ça me faisait louper presque une semaine de cours.
Ouais.
Donc voilà,
Ok.
à chaque fois, c'était assez dur à rattraper. Et donc, j'ai pris la décision de juste continuer à faire de l'escrime pour m'amuser, en fait. En
Ouais.
Guadeloupe, je continuais mes deux entraînements hebdomadaires. En fait, je me souviens très bien, j'étais sur mon lit, je lisais une BD, et mon père vient, et il me dit, bon, j'ai une nouvelle, l'entraîneur national, Franck Boisdin, à l'époque, a dit à l'entraîneur de Jean-Paul qu'il aimerait que tu intègres le pôle espoir de Châtenay-Malabry.
Wow, OK.
Ouais, voilà, donc là, je fais, ah ouais, ok, d'accord. Donc ça sortait un peu de n'importe où, enfin, parce que j'étais, comme je t'ai dit, j'étais un bon tireur français, mais voilà, j'étais dans les 10 meilleurs, c'est pas non plus incroyable.
Ouais.
D'accord, et du coup, ça c'était en avril, et en fait, mes parents étaient pas du tout chauds. Et en fait, d'avril à début août, ben, j'ai travaillé mes parents encore pour qu'ils me laissent partir. Et je crois que c'est même la deuxième semaine d'août que, enfin, soit c'était 10 jours avant le départ, ils n'étaient pas encore sûrs qu'ils ont décidé de me laisser partir. Je me souviens à ce moment-là, quand j'étais jeune, je faisais de l'eczéma. En fait, à ce moment-là, mon eczéma était revenu parce que, ben, en fait, j'étais stressé, quoi. Tous les jours, j'avais une discussion avec mes parents pour trouver des arguments pour les convaincre de me laisser partir. Ma mère me rappelait, j'avais de l'eczéma au creux des coudes parce que quand je leur parlais, je me grattais l'intérieur du coude jusqu'au sang presque.
Ah ouais, ok, ouais, parce que tu voulais tellement y aller
Ouais, c'est
que tu
ça.
te
Et en
mettais
fait,
la
mes parents
pression,
étaient
quoi.
flippés parce que, en fait, ça signifiait internat. Ils avaient peur que je me plante et au niveau scolaire et au niveau de l'escrime. Donc c'était une décision pas facile pour eux.
Ok, et qu'est-ce qui les a convaincus du coup?
Pff, ouais, j'ai promis monts et merveilles. J'ai promis que j'allais avoir 15 de moyenne, que je sais pas, que je donnerais des nouvelles tous les jours, etc. Enfin,
Ouais, déjà,
voilà, et
t'avais
puis.
des talents de commerciaux en
Ouais,
plus de
c'est
tes
ça.
talents
Ouais, c'est ça, mais je
d'escrime.
pense que ce qu'ils ont décidé, c'est juste qu'ils ont décidé de me faire confiance, en fait.
Ok, ah, génial, génial. Et j'avais une petite question forcément relative un petit peu à l'escrime.
Ouais.
Il y a trois disciplines dans l'escrime, à savoir le fleuret, le sabre et l'épée.
Ouais.
À quel moment, toi, t'as choisi le fleuret, du coup? Est-ce que
Alors,
c'est un choix qui se fait tôt dans une carrière?
en fait, j'ai commencé par le fleuret,
Ok.
parce que c'est un peu l'arme d'initiation. Et en fait, après, j'ai testé l'épée très tôt, je crois, à 8 ans. Et j'ai continué un bon bout de temps. J'ai continué jusqu'à mes 13 ou 14 ans, je crois. Et j'étais pas mauvais. J'étais 2 ou 3 fois champion de la Guadeloupe, je crois.
Ok.
Et à même un moment, j'aurais pu faire les championnats de France à l'épée. Mais bon, j'avais pas envie. Pour moi, c'était mon amour, c'était le fleuret. Et en fait, c'est quand j'ai fait un petit passage éclair au Pôle Espoir en Guadeloupe pendant un an. Du coup, bah, c'est à ce moment-là, quand je suis rentré au Pôle Espoir, je m'entraînais plus souvent, mais du coup, j'ai arrêté l'épée. Mais voilà. Mais en fait, c'est parce que ça correspond plus à mon caractère, le fleuret. Parce qu'en fait, faut savoir que ce sont trois sports différents. L'escrime, on peut comparer ça à l'athlétisme. Et au sein de l'athlétisme, il y a l'épée, le fleuret, le sabre, c'est aussi différent que le saut en longueur, le triple saut et le saut en hauteur, on va dire. Chaque
Ouais.
personne a, chaque arme a sa spécialité physique, mentale et tactique. Et l'épée, en fait, c'est, au point de vue tactique, c'est un sport qui est plus attentiste. Alors que le fleuret, on peut un peu plus prendre les devants, un peu plus se précipiter, entre guillemets, hein, j'entends bien. Mais
Ouais.
ça correspond plus à mon caractère un peu impétueux, un peu impatient.
D'accord, ok. Et hyper rapidement, est-ce que tu peux rappeler les différences de règles aux auditeurs? Moi, je les connais, du coup, j'ai travaillé, j'ai fait mes devoirs, mais est-ce que
Ouais.
tu peux les rappeler en deux, trois mots à l'auditeur qui nous écoute?
Oui, alors le fleuret, donc l'arme que je pratique, c'est une arme deathstock, c'est-à-dire qu'on peut toucher qu'avec la pointe avec la pointe de l'arme, on peut toucher que le buste. On n'a pas le droit de toucher ni le bras, ni les jambes, ni le masque. Et c'est une arme de priorité, à savoir que la priorité est à l'attaquant. Donc même si l'attaquant se fait toucher un tout petit peu avant, c'est-à-dire en termes de millisecondes, il a raison, il a la priorité.
D'accord.
Alors que voilà, donc un point ne peut être attribué qu'à une seule personne. Il faut automatiquement décider que si quelqu'un a le point ou pas. Après, évidemment, s'il y a deux actions, on dit simultanées, si les deux adversaires touchent en même temps et qu'il n'y a pas d'attaquant qui se distingue, là, on remet le point.
D'accord.
Alors que à l'épée, qui est aussi une arme deathstock, on touche avec la pointe, on peut toucher tout le corps. Et là, s'il y a deux touches en même temps, il y a un point pour chaque adversaire.
D'accord. OK.
Voilà. Et là, on peut toucher tout, le bras, les jambes, le masque, tout. Il n'y a pas de règle de priorité.
Ok.
Et le sabre, qui est la troisième arme, est un peu différente, parce que du coup, là, on peut toucher avec toute l'arme, c'est-à-dire le tranchant. C'est
Ouais.
l'arme un peu de Zoro, si tu visualises.
Ouais,
Tu
bien
touches avec
sûr.
la pointe et l'arme, donc on peut trancher, entre guillemets. Et on peut toucher que le buste avec les bras et le masque, et c'est également une arme de priorité. Et là, en fait, vu que c'est un peu moins précis, c'est-à-dire que vu qu'on peut toucher avec toute la lame, il faut prendre les décisions très rapidement, donc c'est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus explosif, un peu plus rapide comparé à l'épée au fleuret, vu qu'il faut toucher avec seulement la pointe, on peut un peu plus préparer ses actions.
Ok, d'accord. Bon, bah génial. Merci beaucoup pour ce petit rappel. Je pense que les auditeurs qui savent pas toujours devant leur télé si de quel sport il s'agit, là, je pense que maintenant c'est hyper clair. Je voulais revenir un petit peu sur ton parcours parce que j'ai vu que, alors tu l'as dit, t'es arrivé à l'INSEP en 2010, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Et j'ai vu que tu avais tout de suite été plusieurs fois champion de France junior. Et du coup, est-ce que tu, enfin, l'ascension, elle est assez rapide, tu vois, alors que tu mentionnais qu'en Guadeloupe, bah, t'étais plutôt le numéro 2, on va dire, entre guillemets. Est-ce que là, quand même, tu te confrontes à beaucoup plus d'adversaires? Est-ce que, y a eu un changement de niveau? Comment est-ce que tu le vois un petit peu cette période-là? Parce que c'est vachement impressionnant, quoi. T'arrives en France et finalement, bah, t'es champion de France junior deux fois d'affilée. C'est hyper impressionnant.
Ouais, alors en fait c'est parti d'un peu plus loin, c'est-à-dire que quand je suis pas d'abord, comment dire, je suis pas immédiatement rentré à l'INSEP, j'ai d'abord fait 3 ans en Pôle Espoir,
Ouais.
donc 2 ans à Châtenay-Malabry entre 2007 et 2009 et 1 an à Wattignies. Et en fait quand je suis arrivé à Châtenay-Malabry j'étais cadet et comme je te l'ai dit j'étais un cadet plutôt moyen, moyen bon mais moyen quand même. Et quand je suis rentré en fait les 2 premiers mois j'ai pris branlée sur branlée, mais vraiment. C'est-à-dire, ouais, franchement, je te jure, je suis rentré au sein d'une génération un peu dorée. Les
Ouais.
mecs étaient super forts et je prenais branlée sur branlée. Et en fait, avec le recul, je comprends maintenant que j'étais aussi bon techniquement qu'eux. C'est tactiquement que je pêchais énormément. Parce que, faut remettre dans le contexte, moi j'étais dans mon petit club en Guadeloupe dans lequel je m'entraînais avec peut-être 2 adversaires à chaque
Ouais.
séance, que je battais tout le temps. Et même sur les compétitions, nous étions entre 10 et 15. Alors que les mecs en France hexagonale, ils se confrontaient sur des compétitions où ils étaient à 100, 150. Donc ils avaient des panels de jeux totalement différents auxquels ils pouvaient se confronter.
Bien sûr.
Du coup, ça leur apprenait à s'adapter très vite tactiquement, alors que moi, je restais stéréotypé dans un type de jeu. Et en fait, quand je suis arrivé, ben, les mecs, ils ont très vite compris mon escrime et ils ont très vite tout compris les moyens de me contrer. Et donc, je te jure, ce que je prenais des branlées. Parfois, après l'entraînement, ça m'est arrivé 2 fois d'avoir les larmes aux yeux, de me demander, mais qu'est-ce que je suis venu faire là? En plus, avec la météo, le froid qui arrivait qui s'installait. Enfin, franchement, je te jure, les débuts étaient pas forcément faciles. En plus, certes, la Guadeloupe, c'est la France, mais c'est quand même une île qui est plus proche des États-Unis,
Bien
qui est
sûr.
dans la Caraïbe. Donc, les influences culturelles ne sont pas du tout les mêmes. Moi, je suis arrivé, j'ai arrivé avec mes gros baggy, mes t-shirts qui arrivaient jusqu'au coude, alors qu'ici, c'était l'époque, c'était la mode
Plutôt
des
du
slim,
rock,
des pulls en
ouais, du
col V,
rock,
etc.
ouais.
Donc, c'était vraiment un choc des cultures. Donc voilà, l'adaptation n'a pas été très facile, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents, enfin, qui sont très ouverts d'esprit, en fait, qui m'ont. En fait, j'ai jamais eu ce truc de communautarisme en fait, il y avait ça qui existait au Crêpes, c'est les Antillais qui restaient avec les Antillais. Voilà, moi, j'ai jamais eu ça. En fait, j'avais mes potes de l'escrime et je restais avec eux. Et voilà, en fait. Et donc, du coup, ça s'est très bien passé au point de vue d'adaptation avec mes potes du Crêpes. Et par contre, au niveau de l'escrime, c'était un peu plus long. Et en fait, j'ai eu la chance d'être encadré par mes deux entraîneurs, Franck Boisdin et Aymeric Clot, qui ont été mes entraîneurs que j'ai retrouvés, en fait, à l'INSEP en 2013. Donc, c'était déjà eux qui m'avaient quand j'étais gamin, quand j'avais 15-16 ans. Et en fait, ils m'ont inculqué une discipline de travail, en fait. C'est-à-dire que, voilà, sur chaque séance, tu arrives et tu as quelque chose en tête que tu dois travailler. Et faut que chaque séance, elle compte, etc. Donc, du coup, j'ai bossé un peu dans mon coin. Les résultats ont pris du temps à se faire sentir. Mais en fait, dès le premier circuit cadet, je crois que je l'ai gagné. Enfin, ouais, je crois que je l'ai gagné. Je ne veux pas dire de bêtises, j'ai fait soit troisième, soit premier, mais il me semble que je l'ai gagné. Enfin bref, en fait, en tout cas, la première compète de la saison, j'ai fait un podium.
Ok, ouais, donc
Ce
c'est
qui m'a
parti.
amené, voilà, c'est ça, donc c'était parti. Ensuite, à la fin de la saison, j'étais sélectionné au championnat d'Europe cadet. On fait une médaille de bronze par équipe. L'année d'après, je suis sélectionné au championnat du monde junior. Je suis junior. Là, on fait pas grand-chose. On fait pas de bons résultats. Et en fait, c'est vraiment l'année d'après, donc mon année de junior 2, j'avais 18 ans, qui a été vraiment fondamentale pour moi, c'est-à-dire que mon Crêpes a fermé à Wattignies, donc j'étais muté à... Non, mon Crêpes de Châtenay, pardon, a fermé, j'étais muté à Wattignies. Et là, c'est vraiment été une année charnière, dans le sens où je faisais de très bons résultats au national, en Coupe du Monde aussi, j'ai fait de bons résultats, et j'ai même commencé à faire des résultats en senior. C'est-à-dire que sur une Coupe du Monde senior, ma première Coupe du Monde senior, je suis un tableau de 32, la deuxième, je suis un tableau de 32, et la troisième, je suis un tableau de 16 je me souviens, en battant au premier tour le vice-champion olympique en
Ok,
titre.
ah ouais.
Donc, ouais, pour un petit jeune de 18 ans, c'était pas mal. Et en fait, au championnat du monde junior, je me souviens, en tableau de 32, je rencontre Jean-Paul. Donc, Jean-Paul, je reviens dans le passé, qui était un peu ma bête noire que j'arrivais jamais à battre, même sur les compétitions nationales, je l'avais jamais battu. En fait, je le bats au championnat du monde. Et je fais quart de finale. Et en fait, à l'issue de cette saison, on me propose de rentrer à l'INSEP. Donc, je rentre en junior 3 à l'INSEP, à 19 ans.
D'accord, ok.
Voilà, sachant que normalement, on rentre à l'INSEP en senior 1, enfin à 20 ans. Donc, on m'a proposé une petite année en avance de rentrée.
Ok, d'accord. Ok, cool. Bah, je resitue un petit peu mieux.
Ouais,
Mais du
voilà, je t'ai fait l'entière chronologie.
coup, bah, trop bien. Les auditeurs adorent en tout cas, et moi aussi. Et du coup, je comprends mieux effectivement ton parcours. Et qu'est-ce que ça fait pour un jeune garçon de rentrer à l'INSEP? Ça fait quoi de... Est-ce que ça t'a mis un peu des étoiles plein les yeux? Est-ce que tu te reposes un peu sur tes lauriers et tu te dis c'est bon, je suis au meilleur endroit, maintenant il peut rien arriver? Est-ce que tu te souviens un petit peu de dans quel état d'esprit t'étais en arrivant?
En fait, vu que je suis arrivé en junior, j'ai eu une petite année d'adaptation, c'est-à-dire que je fréquentais les seniors, je m'entraînais avec eux, mais j'avais mes compètes juniors, du coup je fréquentais les mecs de ma catégorie, je partais en compète avec eux, donc ça aide à remettre un peu les pieds sur terre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, t'es
Ouais,
pas
tout à fait.
directement catapulté chez les seniors. Et non, enfin là tu. Quand t'arrives, tu te dis pas que tout va bien se passer parce que en plus, à l'époque, en fait, les championnats du monde senior étaient en novembre et du coup, les mecs, en fait, toi, t'arrives en septembre, tu reprends. En fait, t'arrives et comment dire, tu tires contre des mecs qui sont quasiment au pic de leur forme et ouais, tu prends des branlées, mais des trucs incroyables. Surtout que moi, j'arrivais avec mon petit corps de junior, je me souviens, je pesais 72 kilos. Physiquement, en fait, il y a des trucs sur lesquels je pouvais pas m'aligner, en fait, rien que ça. Même si techniquement je pouvais rivaliser, juste physiquement la différence était trop énorme, quoi. Donc non, en fait, tu te rends compte que va falloir bosser, en fait.
Ouais,
Tu te rends compte qu'il va falloir bosser pour rattraper le retard que tu as. Mais c'est cool parce que aussi c'est un énorme challenge, un énorme défi. Tu te dis ah ben ouais, en fait ça te donne envie de te retrousser les manches à chaque séance. Et puis oui, et puis ah ouais, c'est sûr que tu arrives à l'INSEP, tu fréquentes des mecs que tu voyais dans Escrime Magazine à l'époque,
Ouais.
des mecs que tu pensais inaccessibles. Voilà, c'est comme un petit fouteux qui est en centre de formation, qui sais pas, qui a le droit, qui sais pas, qui est en centre de formation au Real Madrid, et puis qui un jour peut s'entraîner avec l'équipe première et qui s'entraîne avec Benzema,
Ouais.
Cristiano Ronaldo à l'époque, enfin tu vois.
Ouais.
Ouais, pour en mettre dans le contexte, donc ça en met plein les yeux au début, et puis en fait après, il y a le, comment dire, l'intimité du vestiaire qui se met en place, quoi. Tu te rends compte que c'est des mecs comme toi,
Ouais.
des mecs super cool. En fait, tu deviens un membre de l'équipe, quoi, à part entière.
Ouais, et tu démystifies peut-être un petit peu aussi
Ouais, carrément.
toutes ces
Carrément, ouais.
idoles et effectivement tu te dis que t'es pareil qu'eux, t'es plus grand qu'eux, t'es aussi sympa. Et d'ailleurs, ouais, t'as parlé un petit peu de ton physique et que t'étais encore un petit peu juste à ce moment-là.
Ouais.
Mais alors que t'es très grand, on peut le voir sur tes photos et notamment quand t'es en équipe, tu leur mets tous une tête, tu fais 1m90, c'est ça, non?
Ouais, je fais 1m90.
Ok, d'accord. Est-ce que c'est un gros avantage, j'imagine? Et qu'est-ce qu'il faut préparer pour compléter justement une grande taille?
Alors, par exemple, à l'épée, où c'est le premier qui touche qui a raison, c'est sûr que c'est un énorme avantage d'être grand, parce que du coup, tu as plus d'allonge.
Ouais.
Au fleuret, il y a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que certes, tu as plus d'allonge, mais vu que c'est pas le premier qui touche qui a raison, en soi, tu as beau toucher le premier, si le mec qui est en face de toi est plus petit et qu'il te touche en premier, enfin, qui te touche après que tu l'aies touché, mais s'il te touche et qu'il a la priorité, bah, ton allonge ne te sera servi à rien en soi. Tu vois ce
Ouais,
que je veux dire?
tout à fait, ouais.
Et au final, comment dire, au point de vue physique, les grands sont censés être moins explosifs. Donc les petits, ils ont cet avantage-là, c'est-à-dire qu'ils vont plus vite que les grands, sont un peu plus vifs. Moi, la chance que j'ai, c'est que je suis grand et explosif. Donc voilà, j'ai au moins enfin, grâce à mon physique, j'ai ce petit avantage. Après, je suis grand, donc j'ai plus de surface.
Ouais,
J'ai plus de surface
plus
à quand on
facile
peut
à
me
toucher, ouais.
toucher. Ouais, voilà, c'est ça. Et je suis quand même, on va pas se leurrer, je suis quand même un peu moins vif qu'un mec qui fait 1m70, quoi.
Ouais, ça peut se comprendre. Et du coup,
Voilà.
physiquement, qu'est-ce que tu as dû travailler pour retrouver le niveau et la forme physique des grands champions?
Ah, j'ai dû prendre de la force.
Ah ouais?
Ah ouais, j'ai quoi, franchement, mes deux premières saisons, ma première saison, j'ai squatté la salle de muscu. En fait, ouais.
Ok.
En fait, ma saison en junior, elle s'arrête en avril. Donc, à partir du mois d'avril, je faisais des muscu 3 à 4 fois par semaine.
Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Et
Ouais, c'est ça.
c'était quoi? C'était prise de masse,
Ouais, prise de masse.
explosivité,
Ouais, je mangeais énormément. Je faisais de la muscu. C'était prise de masse. Ben, la première année, je crois que j'ai pris 4 kilos de muscle.
D'accord, ok. Ah ouais, mais tu devais être
Ouais.
super fin en fait.
Ouais, ben, 1m90, 72 kilos,
Ouais.
c'est pas très épais, hein.
C'est pas épais, effectivement, ouais.
Et puis même dans les jambes, en fait. Dans les jambes, j'avais pas de puissance dans les jambes parce que j'avais des jambes toutes fines.
Ouais, ok.
Donc, et dans le haut du corps, et dans les jambes, j'ai dû prendre de la masse musculaire.
Ok, d'accord, ouais. Et tu te souviens un peu des séances que tu faisais? Il y avait une séance que tu redoutais particulièrement?
À l'époque, honnêtement, en fait, il y a une. En fait, nos entraînements d'aujourd'hui ont tellement rien à voir avec ce qu'on faisait avant.
Ouais,
Mais
j'imagine.
quand j'y repense, c'est un truc de malade, on s'entraînait tellement moins que une séance que je redoutais, c'était peut-être les contrats de touche.
D'accord.
Parce que j'étais très jeune, donc du coup, je gagnais des matchs, mais j'en perdais beaucoup aussi. En fait, il y a un contrat, en fait, tu arrivais dans la salle, et en fait, on fait des matchs de 15 touches. Et on me disait, bon, ben voilà, aujourd'hui, tu as 90 touches à mettre. Et tant que tu n'as pas mis ces 90 touches, tu pars pas de la salle. Donc, tu rencontres des
Oh.
adversaires et tu dois mettre 90 touches. Donc, admettons que tu gagnes. Ouais, tu gagnes 6 matchs en 15. Donc, si je dis pas de bêtises, ça fait 30,
Ouais, c'est
60,
bon,
ouais,
hein.
90. C'est bon, tu as tout gagné. Mais admettons que tu fasses, allez,
7,
3
8,
matchs, tu
2.
perds 15-3, 15-3, 15-3, ben, tu as mis 9 touches. Et tu as 10 matchs à faire.
OK.
T'as mis, ouais, t'as 10 fois plus que ça à faire.
OK.
En fait, ta séance, elle peut durer 4 heures en vrai.
Ok, d'accord, ouais, je vois le truc, ouais. Donc c'est sûr qu'au
Ouais.
début, si t'es un peu moins fort que les autres, tu dois pas apprécier ce genre de séance, c'est clair.
Ah ouais, tu kiffes pas du tout, non.
Ok, d'accord, génial. Et J'ai vu que tu avais fait les JO de 2012 à Londres, non?
Ouais, c'est ça.
T'avais été sélectionné, je crois. Alors, il me semble, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est une année un peu blanche pour l'équipe de France d'escrime. Alors,
Ouais.
alors que, bah, en 2008, il y avait eu beaucoup de médailles qui avaient été ramenées. C'était un peu c'est une super génération aussi, comme tu le disais. Toi, quand t'es arrivé, c'était sûrement ces mecs-là contre qui t'as dû tirer. Avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé en 2012, à la fois pour toi et peut-être pour le reste de l'équipe de France? Comment est-ce que tu l'analyses maintenant?
Alors en fait, un truc très simple qui s'est passé, c'est la mondialisation de l'escrime. En
Ouais.
gros, avant, peut-être pas jusqu'en 2012, mais voilà, si peut-être, l'escrime, c'était un sport de quoi? 5-6 nations. Tu avais l'Italie, la Russie, la France, la Chine, peut-être la Corée du Sud,
Ouais.
l'Allemagne. Et voilà, ça s'arrêtait là. Et en fait, à partir de 2012, ben, enfin, à partir de 2008, je veux dire, il y a eu beaucoup de nations qui ont émergé. Et en fait, ces autres nations nous ont dépassés parce qu'elles se sont professionnalisées très vite.
Ok, ouais.
À savoir qu'en France, l'escrime reste un sport amateur. Donc, tous les escrimeurs ont fait des études ou même bossent à côté.
Ok.
Et alors que dans les autres pays, ils sont tous professionnels. Ils sont tous professionnels, donc ils font ça à temps plein. Et même, ils ont des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, chose qui n'existait pas en fait avant 2012. C'est le maître d'armes, l'entraîneur, enfin le maître d'armes d'escrime qui faisait tout. La prépa physique, la prépa mentale, il n'y en avait pas. Enfin voilà,
Ouais.
on n'était vraiment clairement pas professionnels. En fait, on a pris cette grosse claque dans la bouche. Et après ce zéro pointé qui était du coup très utile, ben, on s'est posé les bonnes questions. Et dès la saison suivante, en 2013, on a commencé à bosser avec des préparateurs physiques. Et il y a un processus de professionnalisation qui s'est mis en place. On a remis en cause pas mal de choses. Et voilà. Et après, cette équipe de Londres a été pas mal décriée. On a beaucoup tapé sur l'escrime parce que, certes, on ne parle pas de nous pendant 4 ans, mais dès que les Jeux Olympiques arrivent, on a les
Tout le
projecteurs
monde vous
braqués sur nous
regarde.
parce que, ouais,
Ouais.
voilà, c'est ça, parce qu'on est historiquement le sport français qui rapporte le plus de médailles aux Jeux Olympiques, dans l'histoire des Jeux Olympiques. Donc, on compte entre guillemets sur nous pour apporter des médailles.
Ouais.
Mais enfin,
Mais il n'y a
moi,
pas
tu
de
sais,
moyen à côté pour en rapporter.
j'étais le plus jeune de 20 ans, donc j'ai été épargné par les critiques, quoi. Donc honnêtement, moi, j'ai retenu une bonne expérience. J'ai vécu mes premiers jeux. J'ai pris ce qu'il y avait de bon. J'ai aussi jeté ce qu'il ne fallait pas. Et j'en garde une bonne expérience.
Ok, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette analyse. Tu vois, je l'avais pas du tout perçu comme ça.
Ouais.
Et effectivement, des fois, il faut passer par des périodes un petit peu de crise ou des périodes un peu plus difficiles pour savoir rebondir. Et j'ai cru comprendre, bah, quand même que l'équipe de France avait super bien rebondi depuis.
Ouais.
Juste pour clore un tout petit peu le sujet, je suis juste curieux de savoir quelles sont les nations comme ça qui ont un peu explosé très rapidement et qui se sont professionnalisées. Contre toute attente, entre guillemets.
Bah, typiquement à Londres, il y a eu un vice-champion olympique dans mon arme au fleuret qui est égyptien.
D'accord, ouais, ok.
Tu vois, alors qu'avant, l'Égypte n'apparaissait même pas sur la carte du monde. Et puis, il y a eu aussi le phénomène de fuite des cerveaux, entre guillemets. C'est-à-dire que cet Égyptien était coaché par un Polonais. Il y a pas mal d'entraîneurs français aussi qui sont partis à l'étranger. Il y avait Frank Bauer qui entraînait les Chinois à l'époque, ou peut-être déjà les Russes, je sais plus. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de... Il y a eu beaucoup plus d'échanges, en fait, et pas mal d'entraîneurs français qui étaient déjà à l'étranger. Et bah, les nations qui ont éclos, je dirais... Ouais, les États-Unis, la Corée du Sud. Après là, je les ai pas en tête, hein, mais en fait,
C'est sûrement la Chine aussi après 4 ans après
ouais,
Pékin, il
mais
doit y avoir de la.
la Chine, ils étaient déjà forts en fait.
Ouais.
Mais voilà, maintenant au jour d'aujourd'hui, enfin, il y a cette saison, il y a un Espagnol qui a gagné une Coupe du Monde, il y a les Hongkongais qui sont devenus très forts. Enfin, voilà, des pays, des nations dont on n'entendait pas parler et qui maintenant, ben, ont des tireurs qui sont capables de remporter des épreuves de Coupe du Monde.
Ok. Et j'ai cru comprendre qu'en escrime, comme souvent peut-être beaucoup de sports de duel, le pays dans lequel tu pratiques a beaucoup d'influence sur ton style, sur le
Ouais.
style de jeu. Est-ce que toi, il y a des styles contre lesquels tu aimes bien jouer et du coup des nations contre lesquelles t'adores tirer parce que tu sais que tu as plus de réussite?
Ouais, généralement, en fait, moi, je suis plutôt joueur sur la piste, je suis plutôt créateur, etc. Donc,
Ouais.
j'ai du mal contre les tireurs qui ferment le jeu, c'est-à-dire qui créent rien, etc. Donc, ouais, moi, j'aime bien tirer contre, Ouais, ça dépend, mais ouais, j'aime bien tirer contre les Allemands. Ils sont joueurs comme nous, ils créent du jeu. Les Japonais aussi. Mais maintenant, en fait, les frontières tendent de moins en moins, enfin, ouais, tendent de plus en plus à disparaître, en fait, parce que je t'ai dit, tout le monde s'influence un peu de tout le monde. En plus, avec Internet, il y a beaucoup de vidéos,
Ouais,
on
bien
peut
sûr.
piocher dans tel ou tel truc. Donc, il y a encore quelques grandes lignes, mais elle est au jour d'aujourd'hui, chaque escrimeur a un panel de, comment dire, un panel de coups et d'influences qui l'adapte en fonction de l'adversaire. Donc, c'est beaucoup moins stéréotypé qu'avant.
Ouais, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et si je reviens rapidement sur ton parcours, passé ces JO, quand on regarde un petit peu bah ton palmarès, il y a eu des médailles quasiment tous les ans, hein, j'ai l'impression. Peut-être est-ce qu'il y a des trous, non, même pas. T'as eu des médailles vraiment toutes les années. Peut-être en 2018, je vois rien. Tu me diras
Ouais,
si.
c'est ça.
Peut-être en 2018. Du coup. À ce moment-là, tu réalises un peu que ça va devenir finalement ton métier, que tu vas te professionnaliser. C'est quoi ton objectif à ce moment-là, en fait?
À quel moment?
Passer les JO, on va dire. Passer les JO et avant que tu vraiment que t'exploses sur la scène internationale, à la fois en équipe et en individuel.
En soi, honnêtement, en fait, à cet instant, après c'est les JO, même en 2013-2014, tout ça, il a toujours été très dur de vivre que de l'escrime.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, autour de moi, j'avais beaucoup de gens qui bossaient en fait à mi-temps. Il y avait des kinés, il y avait des mecs qui bossaient en entreprise, etc., qui bossaient à mi-temps. Et pour moi, je me suis jamais dit un jour que j'allais être professionnel de mon sport. En fait, je faisais des études de kiné, mais t'es dit bon ben, je fais mes études de kiné. Quand j'ai fini, ben, je vais être kiné à mi-temps pour gagner ma vie. Je ferai du sport de haut niveau. Et j'ai commencé à me dire que je pouvais peut-être en vivre en 2000, allez, en 2014-2015 peut-être,
Ouais.
2015 en fait, parce que mon club m'a trouvé un contrat avec une entreprise qui m'a permis de gagner ma vie de telle sorte que je pouvais payer mon loyer et ma nourriture. Et après, j'ai eu un contrat avec l'armée, donc
OK.
ça s'appelle l'armée de champions en fait.
Ouais, je vois, ouais.
En gros, ouais, voilà, c'est un dispositif qui donne le statut de militaire à des sportifs, mais en fait on est militaire de par le statut, mais en fait pour vulgariser, on sera pas amené à faire la guerre, quoi.
Ouais.
Voilà, en fait c'est l'armée qui nous aide, avec une solde militaire qui nous aide à payer les dépenses du quotidien. Et en fait à ce moment-là, je gagnais correctement ma vie, assez pour vivre. Je me dis mais en fait ouais, je pourrais juste décrocher mon diplôme et après me consacrer à l'escrime un petit moment et pour après bosser plus tard, toi. Donc c'est à ce moment-là que je me dis ça.
Ok, d'accord, ouais. Ok, je vois bien ton parcours. Et l'objectif, ça a été assez rapidement de faire les Jeux en 2016.
Excuse-moi, j'ai pas compris ta question.
Bah, je dis, ouais, dans cette période où tu deviens, du coup, en devi en, où tu deviens pro en 2014-2015,
Oui.
l'objectif principal, j'imagine, c'est les Jeux. Est-ce que toi,
Ouais, c'est les jeux, ouais.
vous avez une super équipe et bah, pour les auditeurs qui ne le savent pas, vous avez eu la médaille d'argent par équipe.
Ouais.
Toi en individuel, ça s'est un peu moins bien passé. Je sais plus ton parcours. Est-ce que tu peux le rappeler et un peu nous raconter ce qui vous est arrivé du coup à Rio?
Alors, j'ai une petite anecdote intéressante. Est-ce que tu veux que je la raconte? Ça sera peut-être un peu plus long.
Ah, vas-y, vas-y, j'adore les anecdotes, moi.
Bon, alors, en fait, faut savoir que j'ai failli ne pas aller aux Jeux de Rio, en soi. En fait, en gros, le point, le, comment dire, ma carrière, j'ai commencé à exploser vraiment au niveau international en 2014.
OK.
C'est-à-dire que j'ai gagné ma première épreuve de Coupe du Monde. Et là, je fais une saison vraiment incroyable. Sur 8 Coupes du Monde, je fais 4 podiums et 2 fois dans les quarts de finale, ce qui est un truc de malade. Je fais 3e au championnat du monde et on est
Ouais.
champion d'Europe, champion du monde par équipe. Une
Ouais.
saison quasi parfaite.
Bien sûr.
Ensuite, j'ai un trou en 2000. Enfin, non. Ensuite, je fais une bonne saison 2015, mais beaucoup moins bonne que celle 2014. Je fais 2 podiums, ce qui est très bien, enfin, ce qui est acceptable, mais voilà, j'étais moins dominant. Et en fait, au début de la saison 2016, mon entraîneur de l'époque était Franck Bodin. Il m'invite au resto, donc on se fait une bouffe tous les deux. On discute, et en fait, Franck, c'était un très grand champion. Il a été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. Il était champion. Attends, je vais pas dire de bêtises. Hein. Non, il n'a pas été champion olympique par équipe. Mais bon, il a été champion du monde par équipe. Enfin,
Ouais.
médaillé individuel, champion du monde. Enfin, voilà, c'est un gros palmarès. Et donc, il me dit au dîner, entre quatre yeux, bon, Enzo, voilà, c'est une saison olympique. La dernière fois, tu étais jeune senior. Tu as pris ta chance au fur et à mesure. Mais préparer une saison olympique de A à Z, c'est différent. Maintenant, tu es un favori. Donc, il va falloir que tu te prépares pour, dans un premier temps, te qualifier. Et dans un deuxième temps, essayer de faire une médaille. Et donc,
OK.
il me dit, ben voilà. Voilà, ça va falloir que tu fasses gaffe à ton hygiène de vie. On y reviendra aussi par la suite si tu veux. Va falloir que tu surveilles ce que tu manges, que tu surveilles tes heures de sommeil, que tu t'investisses encore plus à l'entraînement, que tu arrêtes de faire la fête, etc. Enfin voilà. Donc moi je sors de ce. Et il me cite en exemple le Lionel Plumeil, qui est maintenant, au jour d'aujourd'hui, qui est un de mes entraîneurs, qui me dit, ah, voilà, Lionel Plumeil, il fait deuxième aux Jeux Olympiques de 96 d'Atlanta, et lui, il faisait super attention à ce qu'il mangeait, et il sortait quasiment pas, il pesait son riz et ses pâtes le soir, etc. Rien, hein. Donc moi, voilà. Donc moi, tu sais, en plus, c'était à l'époque où il y avait enfin, en fait, voilà, je me suis dit, voilà, ben, moi aussi, je vais faire des sacrifices, etc., je vais me préparer pour les Jeux Olympiques, donc je suis sorti de ce dîner boosté. Donc voilà, exit les sorties, le resto. Parfois, je prenais un verre de vin, une bière, hop, rien du tout. Je faisais en sorte de me mettre au lit à 23h tous les soirs. Voilà. Et en
Ouais.
fait, j'étais.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nul. Pendant 4 mois, j'étais nul. Mais vraiment, j'ai jamais été aussi nul de ma carrière.
Ok, c'est trop. C'est paradoxal quand même.
C'est-à-dire que. Ouais, c'est-à-dire que même quand je sortais, je rentrais peut-être à 2 heures du matin, j'avais bu une bière. Enfin, je contrôlais vraiment tous les aspects de ma vie. Et en fait, les deux premières compètes de la saison, les 3 premières compètes de la saison, je sais plus, les 2 ou 3 premières compètes de la saison, mais je me foire, mais monumentalement. Une fois, je fais premier tour. Une deuxième fois, je prends une branlée 15-3 contre un junior le jour d'avant, donc le jour des qualifications. Et là, le coup final, entre guillemets, c'était quand j'ai l'épreuve à Paris, en fait, ça s'appelle le CIP, la Coupe du Monde à Paris. Donc c'est vraiment le rendez-vous, c'est l'épreuve la plus prestigieuse, j'étais sur l'affiche et tout. Et là, je perds le premier jour des qualifications contre un Italien qui était semi-retraité, en fait, qui avait plus aucune prétention d'aller au jeu et qui était là. Et voilà, tu vois. Et là, je suis rentré chez moi, je me souviendrai toujours, je suis rentré chez moi. À l'époque, j'étais en coloc avec un escrimeur, Vincent Simon, à qui on était champion du monde en 2014 par équipe ensemble.
OK.
Et lui, il était qualifié. Il dormait pas à l'appart parce qu'il dormait chez sa sœur parce qu'elle habitait à Coubertin, juste à côté de la compétition. Donc, je rentre chez moi le vendredi soir, le soir des qualifs. Et là, je me pose sur mon canapé. Je me douche même pas et tout. Je me pose sur mon canapé. Je mange même pas. Je dors comme ça. Je me réveille le lendemain. Là, quand même, non, même pas, je me suis même pas douché, j'ai juste pris des trucs dans le frigo. Enfin, j'ai survécu pendant 24 heures, en fait. En fait, à cette époque-là, j'étais encore dans l'équipe. Donc, avec ma contre-performance, je pensais que j'allais pas être dans l'équipe, tu vois.
Ouais.
Mais j'ai même pas eu la force d'aller encourager mes coéquipiers le samedi parce que je savais que j'allais croiser du monde, qui allait me poser des questions. Alors, qu'est-ce qui se passe pour moi, etc. J'avais juste envie d'être seul.
Ouais.
Et en fait, le soir, il y a Vincent qui est entré après sa compétition, donc vers 17-18 heures. Je lui dis, ok, bon, c'est bon, je suis pas dans l'équipe. Il fait non, il a annoncé l'équipe, t'es pas dans l'équipe. Je fais ok. Et je lui dis, viens, on va faire les courses, on va prendre l'apéro.
OK.
Et du coup, ce soir-là, on est sorti. Donc, on est allé en boîte, etc. Le lendemain, on est allé encourager l'équipe. Ils ont fait quart de finale. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, franchement, foutu pour foutu, là, vu comment ça se passe, je suis parti pour ne pas participer au jeu, autant que je profite de ma vie, quoi.
OK.
Et là, en fait, j'ai juste recommencé à vivre normalement. Donc, ben voilà, quand j'allais au restaurant avec ma copine de l'époque, ben, si j'avais envie, je prenais un verre de vin. J'allais me coucher au lit. J'allais me mettre au lit quand j'étais fatigué, pas forcément à 23h pile. J'arrêtais d'être une machine. Je me faisais plaisir en faisant des restos, en mangeant Je mangeais pas mal, hein, mais je me faisais un petit craquage alimentaire quand j'en avais envie. Et puis là, en fait, je recommençais à être moi-même. C'est-à-dire que le week-end, je sortais en boîte si j'avais envie de sortir en boîte. Après, je faisais pas n'importe quoi non plus. J'avais pas
En
semaine d'entraînement, le week-end avant les grosses semaines d'entraînement, tu vois. Mais juste que je recommençais, si j'avais envie d'aller danser en boîte, j'allais danser en boîte. Et en fait, je recommençais à prendre du plaisir, en fait, à exprimer ma personnalité, en fait, sur la piste. Et la compète d'après, j'ai fait dans les 16 premiers. Et la compète d'encore après, j'ai fait un quart de finale. Et voilà, j'ai recommencé à retrouver des sensations. Ce qui fait que j'ai décroché ma qualification pour ces Jeux Olympiques. Au championnat d'Europe, je fais quart de finale, je perds 15-14 d'une touche donc. Et en fait, aux Jeux Olympiques, vu que j'avais pas fait non plus une saison exceptionnelle, j'étais pas très bien classé, j'étais même mal classé, j'étais 25e mondial. Et je tombe directement sur Peter Yopich, qui est quintuple champion du monde.
Ouais,
qui est,
grande légende.
Ouais, une tête d'affiche. Et voilà, un match serré, je perds 15-11 ou 15-12. Et voilà.
Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, tu vas quand même chercher cette qualif. Et du coup, tu es qualifié par équipe. Elle est faite comment, l'équipe d'ailleurs? Comment est-ce qu'elle est située?
En fait, en escrime, il y a trois personnes qui tirent l'épreuve individuelle et une personne qui tire que l'épreuve par équipe. Donc, c'est un rôle super dur, la personne qui tire que l'équipe.
D'accord, ouais. Ok. Et c'était toi?
Dans le sens où. Non, c'était pas moi, j'étais le troisième. Enfin, j'étais dans les trois qui tiraient l'individuel.
Ok.
Le quatrième, c'était Jean-Paul.
D'accord, ok.
Jean-Paul Elissé. Et en fait, et puis ce qui est difficile en escrime, c'est que. En fait, il n'y en a que trois qui font la compète par équipe et il y a un droit à un remplaçant. En fait, si le remplaçant ne rentre pas durant l'épreuve, il n'a pas de médaille.
D'accord, ok.
Donc, c'est un rôle hyper dur parce que tu t'entraînes comme un chien, comme tous les autres, et ça se trouve, tu ne vas pas rentrer et ça se trouve, les autres vont avoir une médaille et pas toi.
Ouais, c'est hyper ingrat comme rôle, ouais.
Exactement, donc en fait, en saison olympique, tu te bats pour pas être à cette place-là.
Ok, je comprends mieux. Je comprends voilà. Mieux, ouais.
Et du coup, après lundi, on a su rebondir tous ensemble pour décrocher cette médaille par équipe.
Ok. Et tu te souviens un petit peu de votre parcours, de l'ambiance qu'il y avait dans l'équipe? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu difficiles et comment est-ce que vous avez réussi à rebondir un petit peu?
C'est-à-dire après pour l'épreuve par équipe, tu parles?
Ouais, exactement, pour l'épreuve par équipe. Ouais.
Déjà, on s'est entraîné comme des chiens, je te jure, mais pendant un mois, on s'est vraiment entraîné comme des malades. Enfin, un mois et demi, deux mois. On avait des stages, j'en garde un souvenir, mais vraiment mémorable. C'est-à-dire qu'on se foutait sur la gueule entre nous. On partait en stage, toujours, ça s'engueulait sur les matchs, ça se gueulait au masque. Enfin, c'était vraiment une ambiance de chien enragé, mais vraiment.
Okay.
J'ai une petite anecdote à ce sujet. Il y avait Jean-Paul qui prenait la leçon avec mon entraîneur d'époque, Franck Wadin. Et en fait, il y a un entraînement qui s'appelle la leçon individuelle. C'est-à-dire que l'entraîneur est en face du tireur et il lui fait répéter des gammes techniques. Et ouais. En fait, Franck, il avait un exercice qu'il aimait bien, sur lequel il te faisait cracher tes poumons. En gros, il te faisait des allers-retours. Et bref, à la fin de cet exercice, normalement, tu vas vomir et tu peux à peine te lever. Et là, tu dois en faire 5 ou 6 séries.
Un test UC léger, non? Ou un truc un peu similaire?
Ça peut s'apparenter à ce genre d'effort. C'est-à-dire que tu fais un retranchement, mais en spécifique.
Ok, d'accord.
C'est-à-dire en escrime.
Ok.
Mais on n'est pas loin de l'idée.
Okay.
Et donc là, Jean-Paul, on le regardait et tout, on voit qu'il en chie et tout, il manque de vomir au bout de sa quatrième série et on sait qu'il en reste deux. Et là, donc Jean-Paul revient, hop, il va ramasser son masque qui est au milieu de la piste pour se remettre en garde. Là, l'entraîneur est trop cool, tu vois, il lui prend son masque et là, il va lui donner le masque et en fait, au lieu de lui donner le masque, il le lâche à ses pieds et lui fait « On est en saison olympique, tu crois vraiment que je vais te faire des cadeaux ?» Voilà, c'est pour te décrire un peu l'ambiance.
Ok, d'accord. Ouais. Donc, c'était vraiment entraînement à la dure et...
Ouais, c'est okay, ça.
Okay.
Donc, en fait, on était prêts. Physiquement, mentalement, on était... Comme je t'ai dit, quand tu sens une préparation comme ça, t'es juste un chien enragé.
Ouais, ok.
Et en fait, on gagne notre premier match en quart de finale sur les Chinois. C'était déjà chaud parce que l'équipe, les Chinois ont une très bonne équipe.
Ouais, bien sûr.
On gagne 45-42 et c'était chaud. Et en fait, on arrive sur l'Italie. L'Italie qui était notre bête noire, on les avait pas battus depuis 2 ans, vraiment.
Okay.
On les avait pas battus et on n'était même pas proches, tu vois.
Ouais.
Et là, on arrive et en fait, on est en chambre d'appel. Il faut savoir qu'aux Jeux Olympiques, la chambre d'appel est très longue. C'est-à-dire que en Coupe du Monde, t'attends 10-15 minutes dans la chambre d'appel. Là, on a attendu bien 30-40 minutes.
D'accord, ok.
Et en fait, les 15 dernières minutes, en fait, imagine, t'as un petit couloir, tout sombre. Ouais. Et en fait, t'attends avant de rentrer sur le plateau de compétition. En fait, les 4 tireurs sont là. Les Français, donc, l'un derrière l'autre, les Italiens, les uns derrière les autres, on attend, comme ça, pendant 15 minutes.
Comme le, ouais, comme avant l'entrée d'un stade de foot où t'as les adversaires qui sont
ouais,
juste à côté, quoi. Ok.
Sauf que t'attends 15 minutes.
Ouais, ça dure pas 2 minutes.
T'attends que... Voilà, c'est ça. Et c'est pas pareil que le foot où t'es 11. C'est pas un sport. Là, c'est un sport de duel. C'est-à-dire que la personne qui est à côté de toi, dans quelques instants, tu vas être en face de lui, tu vas vouloir lui faire la peau, entre guillemets, tu vois.
Ouais, ouais.
Et en fait, il y a une espèce de tension, une atmosphère à couper au couteau, une espèce d'adrénaline. Enfin, c'est vraiment ce qui me fait, entre guillemets, vivre, quoi. C'est ouais. Des moments comme ça. Et en fait, nous, on était les outsiders. On savait très bien qu'on n'était pas les favoris. Du coup, on était là, etc. Et puis, en fait, il y a un des Italiens, c'est Andrea Cassara, qui était, on le voit, il bougeait dans tous les sens, il se parlait à lui-même, il était agité, puis il jetait des coups d'œil dans notre direction. Et là, il y a Erwan Lepechou, qui est le douane de l'équipe, donc notre capitaine, qui nous dit, bon les gars, j'ai déjà vu comme ça en 2004, et pareil, il était dans ce même état d'agitation, et pareil, c'était chié dessus. Et là, il me dit, bah, si, il me dit ça comme ça, s'il y a un truc à faire sur quelqu'un, un moment, c'est sur lui. Donc là, on est OK, bon, voilà, ben, nous, on était calme, voilà, on était dans le truc, et puis là, on commence le match, 2 premiers relais, et puis là, comme d'habitude, hop, les Italiens commencent à se détacher, comme d'habitude. Et donc là, c'est moi le 3e relayeur, et je prends le relais à 17 contre, et donc j'ai 3 touches de retard. En fait, ça se passe. Je fais une petite parenthèse pour expliquer comment se passent les compétitions par équipe.
Vas-y, avec plaisir, ouais, super.
En fait, il y a les 3 adversaires, les 3 membres d'une équipe qui affrontent chacun les 3 membres de l'autre équipe. C'est-à-dire que moi, je vais affronter les 3 Italiens au fur et à mesure. Mmh. Et en fait, il y a 9 matchs du coup.
Okay.
Donc en fait, à chaque fois que tu prends un relais, tu récupères le score que ton pote a laissé. Donc, admettons que le premier match, mon coéquipier le gagne 5-0. Je prends le score à 5-0, je dois aller en 10.
D'accord. Tu vois ? Ok, ouais.
Donc si je prends un 5-0, je peux prendre 10-0 et l'Italien aura mené 10-5 et il transmettra le relais à 10-5 à son copain. Tu
d'accord, ok, ouais, ok, donc c'est pareil.
C'est les scores cumulés.
Ok, trop bien.
Voilà, c'est ça.
C'est hyper
simple. Voilà, donc en fait, tu dois pas te concentrer pour gagner ton match, tu dois te concentrer sur la finalité pour faire gagner ton équipe.
Ouais, ok.
Donc tu vois, en gros, donc si t'as ton coéquipier qui prend l'eau, bah tu es là, bon, ok, je vais t'aider, je vais entre guillemets attraper ton erreur, etc. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc, c'est pour ça que c'est pas la somme d'une individualité qui fait les équipes, c'est vraiment. Un ensemble, un tout en fait. Faut qu'il y ait plusieurs ingrédients, il faut que la mayonnaise elle prenne.
Ok, génial.
Donc voilà, je prends le relais en troisième position. Et là, je tire contre ce fameux Andrea Cassara.
Ouais.
Et en fait, en me branchant, je me suis rappelé ce qu'elle m'a dit Erwan. Et en fait, je me souviens très bien de mon état d'esprit. Je me dis, bon, en plus, ce mec-là, je prenais des branlées à chaque fois. Et en fait, je me suis dit, bon, ben allez, débranche ton cerveau et rentre-lui dans l'art.
Ok.
Et en fait, les 2 premières touches, je lui fonce dessus, bam, bam, je mets les 2 premières, et là, en même temps, je lui crie dessus. Enfin, je lui crie dessus, en fait, je crie, mais pas en face de lui, tu vois, mais je crie pour lui montrer que je vais l'agresser, quoi.
Ouais, ouais.
Et en fait, le match allait super vite, il a dû durer 30 ou 45 secondes, en fait, c'était pas techniquement que j'ai gagné ce match, c'est pas tactiquement, c'est juste mentalement, c'est juste l'agressivité. En fait, je faisais pas forcément des trucs beaux, je faisais pas des trucs qui. Mais je voulais rentrer dedans.
Tu lui as fait peur, quoi. Tu lui as fait peur, ouais. t'as joué un peu à l'intox et ça a payé.
Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai gagné le match 7-2, 7-3. Le relais, du coup, 8-2, 8-3, je crois. Je rends le relais à 15-13 pour nous. Et en fait, à chaque touche que je mettais, je gueulais un peu pour mon adversaire. Et en fait, je me retournais pour gueuler vers mes coéquipiers pour transmettre l'énergie.
Ouais.
Et en fait, à partir de ça, mes coéquipiers en fait ont repris le relais après. Et là, plus personne n'a peur d'un relais. Et là, c'était des 5-2, 5-3 en enchaîné. En fait, on a gagné de 15 points à la fin. Ouais. On a gagné à 45-30.
Ah, incroyable.
Et c'est ce moment-là qui est l'un des moments les plus mémorables de ma carrière. C'est-à-dire que je suis avant-dernier. Enfin, ça, je suis avant-dernier. Et en fait, je donne le relais à Erwan. Non, je n'étais pas mon dernier, j'étais troisième. Non, en fait, non, voilà, j'étais sur le banc, et en fait, il y a Erwan qui prend le relais à 40-27 ou 40-28.
Okay.
Et en fait, on sait à ce moment-là qu'on est médaillé olympique, quoi.
Ouais.
En fait, Erwan met la 45e touche et on sait qu'on est médaillé olympique.
Ouais, donc
et ouais, c'était vraiment un beau moment.
Ouais, et du coup, là, t'as un peu tous les efforts qui sont récompensés, quoi. Parce que vous avez l'air de vous être préparé vraiment, t'as dit
comme
le terme,
des
quoi, comme des chiens, comme des tarés. Là, j'imagine il y avait un sentiment d'accomplissement qui devait être super fort. Et d'ailleurs, je voulais te poser une petite question un peu sur l'ambiance. C'est vrai que là, tu as décrit une ambiance un petit peu à la dure. Et merci la Fédération française d'escrime qui a une chaîne YouTube assez fournie quand même, avec
ouais.
pas mal de vidéos. Et c'est plutôt cool. Je trouve que beaucoup de fédérations devraient s'en inspirer parce que là, on peut voir un peu l'ambiance qu'il y a chez vous. Et tu vois, moi, j'ai l'impression qu'il y a une super ambiance et qu'il y a un énorme besoin de s'amuser, de décompresser ensemble. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est une des forces de l'équipe de France, justement, c'est cette ambiance-là?
Ah, mais clairement. En fait, on est un sport individuel, mais on a besoin du collectif pour progresser individuellement.
Ouais.
Et en fait, moi, je sais que l'ambiance du groupe, c'est ce qui me tient. Je pense que je ne suis pas le seul, mais c'est ce qui me tient quand c'est un peu compliqué parce que on te demande tous les jours, deux fois par jour, de te mettre le cul par terre. C'est compliqué. Hein. Moi, j'ai pas fait de sport comme la natation et l'athlétisme, c'est bien pour ça. Hein.
Ouais.
Moi, je voulais faire un truc ludique. J'ai beaucoup de respect pour les athlètes et les nageurs, peut-être même encore plus, parce que ce qu'ils font, arriver à se mettre le cul par terre quasiment tout seul tous les jours, c'est incroyable.
Ouais.
Mais moi, il faut un sport où je m'amuse, en fait. Et ouais, en fait, nos échauffements, tu me demandes de nous échauffer en faisant des talons-fesses, des genoux-poitrine, ça nous fait vraiment chier. Et du coup, nous, on s'entraîne en faisant des ultimates, du frisbee, on faisait du foot avant, maintenant on fait du spike ball, on fait toujours des sports co pour s'échauffer parce que, en fait, on n'aime pas trop les trucs qui sont rébarbatifs.
Ouais.
Donc, bien sûr, hein, on est des sportifs de haut niveau, donc on va le faire, les trucs chiants, etc. C'est-à-dire que maintenant, on fait beaucoup moins d'échauffement avec des sports co, on fait des trucs un peu plus professionnels, etc. Mais on a besoin de. On a besoin de jouer et on a la chance d'avoir un groupe qui vit super bien ensemble. Chacun a sa personnalité bien, bien affirmée. Chacun amène son truc au groupe. Enfin, ça se charrie tout le temps, en fait.
Okay.
Ça se vanne tout le temps.
ouais,
vraiment, c'est vraiment l'essence de notre groupe. C'est-à-dire que parfois, quand je suis avec des gens qui ne sont pas partis forcément du milieu du sport, limite, mon premier réflexe, c'est de vanner. Je vais me dire, mais non, en fait, c'est pas comme ça dans la vraie vie. en fait.
Faut faire attention.
ouais, c'est ça. Et ouais, c'est clair que c'est en grande partie grâce à ça que notre groupe est aussi fort. Mais je pense que parfois, les étrangers pètent des câbles. L'an dernier, au championnat d'Europe, où on gagne. Après, donc, entre la demi-finale et la finale, pour s'échauffer, on a fait un spike ball.
Ouais.
Alors que okay. Soit, les Allemands, ils faisaient talons faits, genoux poitrine, faire un truc vraiment. Enfin, pro quoi.
Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Et toi, c'est quelque chose qui te nourrit, franchement. J'ai l'impression que tu fais partie maintenant des tauliers un peu de cette équipe. Tu fais partie vraiment des leaders. T'as les titres, t'as l'expérience. Ça s'est confirmé cet été. On va en parler juste après. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te nourrit ou c'est plutôt quelque chose que tu vois, comment dire, je sais pas. Est-ce que c'est ma question est pas très bien formulée, mais j'ai l'impression que tu es un de ces leaders d'opinion dans cette équipe. Est-ce que tu me le confirmes?
Bah oui, de par mon ancienneté et un peu mon palmarès, oui, c'est sûr que maintenant mon opinion compte et j'essaie d'être un exemple entre guillemets, un modèle entre guillemets pour mes jeunes coéquipiers qui arrivent, tu vois.
Ouais.
Comment dire, c'est-à-dire que j'essaie d'être toujours déjà, ne serait-ce que pour moi. À chaque entraînement, je donne le maximum que je puisse donner. Tu vois, essayer d'être vraiment irréprochable. Et après aussi, c'est sûr que j'ai envie de cultiver cette bonne ambiance, cet état d'esprit, et pas qu'il y ait une sorte de concurrence, de compétitivité malsaine qui s'instaure.
Ok. Et vu qu'il y a beaucoup de sportifs qui nous écoutent dans des sports aussi individuels, mais qui peuvent être des sports d'équipe, je pense, toi, qu'est-ce que tu fais un petit peu au quotidien pour entretenir justement cette bonne ambiance? Tu as parlé du fait de chambrer et de faire beaucoup de blagues. Est-ce que tu as d'autres petits ingrédients pour une recette d'une équipe qui fonctionne bien?
Franchement, c'est compliqué parce que c'est dur.
Ouais, c'est de l'humain.
Comment dire. Bah ouais, c'est dur de se forcer en fait.
Ouais, exactement. Ouais,
en soi. En gros, voilà, on se vanne tous. Donc ça, on a la chance d'avoir ça en commun. On est tous relativement drôles. Donc ça va, ça marche bien. Mais même moi, j'ai mes copains escrimeurs, on fait des trucs à côté. Quoi. On va au resto, on va boire des coups ensemble. enfin voilà, on fait des trucs à côté, on fait des ciné. J'ai même été en colocation 2 ans avec un copain d'entraînement. Enfin, ouais. On vit ensemble en fait. Ouais. Je sais pas comment expliquer. C'est en fait, il y a la vie à l'entraînement et la vie hors entraînement.
Ok. Ouais, ben passer plus de temps ensemble, c'est quelque chose c'est peut-être ça la recette secrète justement de.
Ouais, et puis après ça se fait tout seul, c'est-à-dire qu'on est quand même souvent parti à l'étranger, on partage des chambres d'hôtel ensemble, parfois on part à l'étranger pendant longtemps sur des destinations qui sont loin comme le Japon, les États-Unis, donc là on va au resto ensemble, on fait des trucs, on va faire du shopping, on va se balader, on va visiter ensemble, donc rien que ça se fait naturellement.
Ouais, ok, ouais, carrément, bah, c'est cool. Mais en tout cas, ça se sent vraiment. Je recommande aux auditeurs d'aller regarder un petit peu sur la chaîne YouTube de la Fédération française d'escrime et d'aller voir aussi sur ton compte Instagram. On sent qu'il y a une bonne ambiance entre tout le monde et ça fait. Et ça fait. Enfin, ça fait chaud au cœur en tout cas, ça fait plaisir. Et cet été, t'as eu ton plus gros titre individuel puisque t'as été champion du monde. Je crois que ça a été juste avant en plus une jolie nouvelle d'être papa. Je sais pas si j'ai pas les dates exactes, mais je pense que c'est quelques semaines avant à peine.
J'ai été papa 2 semaines après mon titre de champion du monde.
Ouais, d'accord. Donc ça s'est enchaîné juste après. Ouais. Donc deux.
Ouais, c'est ça.
Deux superbes nouvelles. Comment t'as réussi d'ailleurs à t'entraîner sereinement avec ta compagne qui était enceinte, et est-ce que ça a été une source de motivation pour toi?
Pas une source de motivation. En fait, j'ai plutôt essayé de faire abstraction de ça. En fait, j'avais juste peur que de laisser ma compagne accoucher seule en fait.
Ouais.
C'est ça dont j'avais un peu peur.
C'est un gros stress.
En fait, j'étais au championnat du monde, c'était sa dernière, c'était son dernier mois, était dans son 9e mois.
Ouais.
Donc voilà, je voulais assister à la naissance de ma fille.
Bah bien sûr.
Tout simplement. Et en fait, j'y pensais pas, honnêtement, j'ai fait mon truc. Après, ma compagne était vachement cool avec moi, c'est-à-dire que, ben, en un moment, elle m'a fait sentir que, voilà, que je partais trop ou quoi, enfin, elle a vraiment réussi à gérer, et pour ça, je la remercierai jamais assez, mais non, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt le fait d'essayer de pas trop y penser, justement, qui a été salvateur, je pense.
Ok, d'accord, ouais. Bon, bah, tu fais bien de le préciser, en tout cas. Et tu t'étais beaucoup préparé pour cette compétition. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelles conditions t'arrivais et comment tu te sentais du début jusqu'à la fin de ces championnats du monde?
Alors, encore une fois, je sortais d'une saison un peu compliquée. C'est-à-dire que j'avais fait un podium en octobre et après traversé du désert.
D'accord.
Des premiers tours, des deuxièmes tours, enfin, aucune performance. Et notoire, en tout cas. Et du coup, en fait, j'ai remis pas mal de choses en question. Et en fait, vers la fin de saison, j'ai commencé à effectuer une petite montée en puissance qui s'était déjà traduite au championnat d'Europe où j'ai fait troisième.
D'accord.
Troisième individuel, et on gagne par équipe. Et en fait, après ce championnat d'Europe, j'ai vraiment repris confiance en moi. Je me sentais vraiment super fort. Je me sentais vraiment bien. Et en fait, c'était quand? C'était 3 semaines avant les championnats du monde. Un peu moins de 3 semaines avant les championnats du monde. Je me souviens, c'était une journée où en fait j'avais vraiment chargé. J'avais fait une séance de muscu, un entraînement individuel, on avait une séance d'escrime et je me sentais vraiment au top de ma forme physiquement. Donc, j'en donnais, je me sentais vraiment bien. Donc, je fais des trucs et tout. Et puis, en fait, je pense un peu, ça me fait penser à l'histoire d'Icar qui a voulu voler trop près du soleil. Je pense que j'aurais dû plus écouter mon corps et bam, je me suis blessé.
Ok.
J'ai senti une pointe aux adducteurs, donc je me suis arrêté net. J'ai arrêté l'entraînement, je suis allé voir le kiné. En fait, hop, déchirure de grade 1. Et en fait, je suis parti au stage de terminale, c'est-à-dire on part tous à Forges, toute l'équipe de France part à Forges-les-Eaux pour en stage pour s'isoler un peu et fignoler la préparation. Et en fait, j'ai pas pu m'entraîner du stage terminal. Donc voilà, pendant 8 jours, j'étais là-bas. Mes potes, ils se foutaient sur la gueule, ils s'entraînaient, ils s'entraînaient super fort, et moi j'étais là et j'arbitrais juste des matchs. En fait, je faisais juste mes séances de kiné 2 fois par jour et du gainage
quand
je pouvais.
Okay,
je faisais rien, c'est-à-dire que je me dépensais pas. Et j'étais là, donc je me rongeais le frein. En rentrant de ce stage, j'ai eu le feu vert, c'est-à-dire que il m'a dit que je pouvais reprendre l'entraînement, mais que voilà, on va attendre d'être à Budapest le lieu de déroulement des championnats du monde pour reprendre l'entraînement. Du coup, on est arrivé à Budapest et en fait, 5 jours avant la compétition, j'ai fait un petit test, j'ai pris la leçon, pas de douleur. J'ai tiré avec mes coéquipiers et là, j'étais nul. J'ai pris des branlées sur les trois, sur les trois coéquipiers.
Ok.
Ouais. Donc là, on est à J-3 des championnats du monde. Et là, du coup, on arrive. Et en fait, la chance que j'ai, c'est que je n'ai pas dû passer par les épreuves de qualification parce que j'étais dans le top 16 mondial.
Ouais.
J'étais 14e, si je me souviens bien. Du coup, j'avais un peu plus de temps aussi pour me remettre de ma blessure, tu vois. J'avais 3 jours de plus.
D'accord, ok, ouais, je vois.
Et du coup, en fait, le fait d'avoir cette blessure, ça m'a amené à me focaliser sur le principal, en fait, pas faire des superflus.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Je savais que j'étais totalement dans l'inconnu, donc je me suis appliqué à faire ce que je savais qu'allait fonctionner. Enfin, j'ai vraiment restreint mon jeu. Donc mon premier match, je gagne 15-9, mais c'était assez serré au début. Et en fait, à partir de là, au fur et à mesure, j'ai monté en puissance. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les matchs défilaient, j'élevais mon niveau, je rajoutais un truc. Et après, quand je suis arrivé en demi-finale, je gagne, je sais plus, 15-7 ou 15-8. En finale, 15-9. Hein,
ouais.
J'étais juste lancé, quoi.
Ouais, t'as déroulé et tout. Et t'as vraiment survolé cette compétition, j'ai l'impression.
Ouais, et puis j'avais une fraîcheur mentale, en fait, au final.
Ouais, c'est vrai, ouais. Mais j'ai l'impression que ça te sert bien, finalement, de te reposer avant les compètes. C'est peut-être ça ta recette secrète, non?
Ouais, après, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. C'est-à-dire, ça m'aide peut-être de prendre du recul, enfin, de sortir d'une phase difficile pour prendre du recul pour pouvoir rebondir.
Ouais.
Ça, c'est vrai. Mais après, là, c'est la première fois où j'étais dans le cas de figure où je pouvais pas trop m'entraîner.
Ok, ouais. Je voulais te poser deux, trois petites questions avant de terminer sur ton style de vie. T'en as parlé un peu tout à l'heure. J'ai vu notamment que tu faisais beaucoup de yoga avec ta compagne. Depuis quand t'as intégré ça dans ta routine et ton entraînement?
Alors, le yoga, je l'ai intégré on est en mars 2020, bientôt avril. J'ai commencé à entraîner, à l'intégrer vraiment vers mars 2019.
D'accord, ok.
C'est très récent. En fait, j'ai commencé à travailler avec une préparatrice physique qui est d'un genre un peu particulier, c'est-à-dire qui étudie les mouvements, mais dans les micro-mouvements, les amplitudes de hanches, de genoux, d'articulation, etc. En fait, je me suis rendu compte que j'étais très limité. Et qu'il y avait vraiment des trucs sur lesquels je devais bosser, parce qu'en fait, l'escrime est un sport asymétrique. Donc, c'est difficile d'avoir un corps qui soit, comment dire, harmonieux. Quand je dis harmonieux, je parle pas de l'esthétique, hein, mais qui soit équilibré, en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai mes muscles de la hanche droite sont plus forts que ceux de la hanche gauche. Du coup, j'ai moins d'amplitude de la hanche droite. L'épaule, c'est pareil. Enfin, voilà.
Ouais, vous êtes un peu déséquilibré, vous les.
Ouais, exactement. Ouais. En fait, ma compagne est professeure de yoga et elle a monté d'ailleurs un concept de yoga dans Paris. En fait, j'ai commencé à y aller avec elle, à ses cours. Et en fait, j'ai commencé à l'intégrer à mes dimanches. En fait, j'allais faire du yoga le dimanche. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me permettait de me dérouiller, entre guillemets, du week-end.
Okay.
C'est-à-dire le fait de faire une activité physique le dimanche soir, une activité physique douce, ça me permettait d'enchaîner le week-end et de commencer sur la semaine et d'être plus apte à commencer ma semaine d'entraînement.
Okay.
C'est-à-dire que avant, le samedi ou le dimanche, je restais pas dans mon canapé, mais je faisais pas de sport, c'est-à-dire que j'allais me balader, etc. Et du coup, le lundi, il y avait tout le temps un petit moment de latence avant de me remettre dans de bonnes dispositions pour m'entraîner.
Okay,
en fait, le yoga, ça m'a amené ça. Ça, plus le fait de gagner quelques millimètres dans mes amplitudes de hanches, etc. Et donc, c'est quelque chose que j'ai réussi à garder jusqu'en juillet. Mais malheureusement, depuis la naissance de ma fille, c'est compliqué parce que ma compagne est professeure de yoga, elle vit de ça. Donc, quand elle donne les cours, maintenant, je dois garder la petite. Donc,
okay.
J'ai un peu plus de mal à l'intégrer. Donc, je l'ai intégré dans ma routine d'échauffement. J'essaie d'en faire un peu tous les jours. Bon, j'y arrive pas forcément, hein, mais j'essaie d'en faire le plus souvent possible. Et pendant ces périodes de confinement, j'essaie d'en faire le plus possible, vu que je suis coincé, entre guillemets, chez moi. Ben voilà, quand on couche la petite, j'essaie de faire un peu de yoga avec ma compagne le soir.
Ok, trop cool. Super intéressant. En tout cas, moi, c'est pareil, je l'ai mis dans ma routine depuis un petit moment grâce à ma compagne, celle qui m'a tiré un petit peu vers ça. Et vraiment, je sens qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de bienfaits. Donc, je le recommande à tout le monde, effectivement, une fois par semaine. Déjà, rien que pour commencer, ça fait un bien clairement. Fou et ça peut faire la différence au bout du compte. J'ai vu aussi que tu gérais, enfin, tu faisais beaucoup de community management et que tu gérais les comptes des réseaux sociaux de certains sportifs. Est-ce que je me trompe ou...
Alors, pas certains sportifs. Déjà, c'est moi qui gère mes réseaux sociaux.
Ouais, bien sûr.
Et après, ben, justement, je gère les réseaux sociaux du compte, ben, de l'entreprise de yoga de ma compagne.
D'accord, ok, génial.
Voilà, ouais, et puis je fais ça aussi pour une marque de prêt-à-porter pour un restaurant dans
D'accord,
Paris.
ouais, donc t'en as fait presque un job.
Ouais, c'est ça, en fait. En gros, on parle souvent des compétences que développent les sportifs de niveau du fait de leur activité sportive. Ben moi, c'est quelque chose qui est un peu inhérent à ma pratique sportive. C'est le fait d'être obligé vu que je pratique un sport amateur, j'ai dû faire en sorte de faire bien attention à ma communication, en fait, sur les
Ouais, bien
réseaux
sûr, tu
sociaux
dois communiquer,
et
ouais.
pour attirer des sponsors. Et en fait, j'ai développé ces compétences. Et du coup, j'ai décidé de les mettre entre guillemets au service d'une occupation professionnelle.
Ok, trop cool, trop cool. Et du coup, tu t'es formé un petit peu au fur et à mesure et toi, finalement, tes comptes à toi, ça te permet un petit peu de tester de nouvelles choses et derrière, tu peux les appliquer avec tes clients et tes partenaires, quoi.
Ouais, c'est ça. Et même, je trouve ça même plus facile. Je trouve ça plus facile pour de gérer en fait les comptes des autres, parce que moi, en fait, j'ai pas énormément de distance vis-à-vis de mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que, bah, une compète sur laquelle je me foire, ok, je vais communiquer, je vais dire, bah voilà, c'est pas passé cette fois-ci. Quand t'es dans une spirale un peu négative et tu loupes deux, trois, quatre compètes à la suite, à la fin, t'as juste plus envie d'être sur les réseaux sociaux, en
Ouais,
fait. T'as juste envie
clairement.
qu'on te laisse tranquille et ça devient compliqué de communiquer. Alors que quand c'est extérieur, bah, t'as toujours de l'actualité et voilà, tu postes avec détachement, quoi.
Ouais, exactement, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bon bah très cool en tout cas. J'encourage vraiment les auditeurs à aller voir ton compte qui est plutôt chouette. En plus tu il y a
Merci.
pas que de l'escrime, il y a un petit peu de Enzo papa, il y a un peu de Enzo qui pose pour des fringues aussi. J'ai l'impression que tu as beaucoup de goût pour les fringues un peu style US, non?
Ouais, bah après, ma nana, en plus d'être professeure de yoga, elle est styliste, donc c'est une façon qui nous rassemble un peu aussi.
Ok, d'accord, trop cool. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ta garde-robe là en ce moment là? Qu'est-ce que tu recommandes en style?
Franchement, honnêtement, maintenant, enfin, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à la mode, je suis tombé un peu dans les travers, c'est-à-dire que je portais vachement de choses extravagantes, des choses que je voulais que ça se voie, en fait. Mais en fait, maintenant, j'ai compris qu'il faut juste être confortable dans ses vêtements.
Ok, ça
En
marche.
fait, voilà, si je donne un conseil, c'est pour être stylé, il faut être confortable.
Ok, bah ça marche. Je retiens le conseil, j'aime bien, j'aime beaucoup. Pour la fin, après, comme le temps passe très vite et que j'ai pas envie de te retenir trop longtemps, là j'ai des petites questions pour la fin. C'est ce que j'appelle un peu les questions Canal+, les questions un peu tac au tac. Je te les ai envoyées comme
Vas-y.
ça tu pourras comme ça t'as pu un peu les regarder. Est-ce que tu te
Oui.
prêtes au jeu? Tu peux y répondre rapidement ou si tu veux, tu peux détailler un petit peu plus les réponses si tu en as envie.
Vas-y, je suis prêt.
Allez, la première, c'est de savoir, c'est quoi une bonne journée pour toi?
Une bonne journée pour moi, c'est une journée où je me réveille, je prends mon petit déj, je vais m'entraîner le matin. Le midi, je vais avec ma compagne ou des amis manger au resto. Ensuite, on va se balader un peu, prendre un thé autre part ou aller voir une expo. Ensuite, je vais à mon entraînement de l'après-midi. Et le soir, je rentre, je couche ma fille, je dîne avec ma compagne. Et puis, on peut s'asseoir ensemble. Donc, on peut regarder la télé, discuter de choses et d'autres. Et voilà.
Voilà, des plaisirs simples. Des plaisirs simples et...
Ouais.
Ok. C'est quoi le plus beau souvenir de ta carrière?
La victoire contre l'Italie en demi-finale des Jeux Olympiques,
Ouais.
que je mettrai en égalité avec mon titre de champion du monde individuel.
Ok, ça marche. À l'inverse, est-ce que tu as un pire souvenir?
Mon pire souvenir, c'était en. Ben, on y revient, tu as dit qu'en 2018, on n'avait rien gagné. Ben, ça, c'est en 2018, en fait, où on est en quart de finale des championnats du monde contre les Russes. On mène le match, et puis là, je prends le relais, et en fait, j'ai un trou noir et je prends un 12-3 contre un Russe.
Wow.
Ce qui fait que. Ben, en gros, on perd en quart de finale contre la Russie et c'est en grande partie, enfin, c'est uniquement à cause de moi.
Ok. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a changé ta vie?
Une rencontre qui a changé ma vie.
Attention, tu vas être obligé de dire que c'est ta compagne, hein, sinon elle va te gronder, mais.
Ouais, qui a changé ma vie, bah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est clair que ma compagne, maintenant qu'on a un enfant ensemble, donc c'est sûr que ça a vraiment bouleversé ma vie.
Ouais.
Mais ouais, donc ouais, je vois vraiment que ça. Après, il y a des personnes que j'ai rencontrées qui ont influencé ma vie, mais qui a vraiment bouleversé ma vie. Oui, c'est sûr que c'est ma compagne. Merci du
Ouais, du coup, il y a peut-être d'autres rencontres qui t'ont mis un coup de boost dans ta carrière sportive.
Ouais, c'est sûr, il y a Brice Guyard qui a été champion olympique en 2004 au fleuret. Je l'ai rencontré pour la première fois quand j'ai gagné une compétition de jeunes, j'avais 8 ans. Il m'avait signé une carte dédicacée.
Ok.
Et en fait, après, il devient champion olympique en 2000. Non, il était déjà. Non, attends, je vais pas dire de bêtises. Non, il n'avait pas encore été champion olympique. Ensuite, par la suite, il a été champion olympique. Et en fait, là, je suis tombé amoureux de son jeu. C'est-à-dire que je lui ai tout pompé. Je
D'accord.
lui ai tout pompé et je suis arrivé à l'INSEP. Lui, il était plutôt en fin de carrière. Et en fait, jusqu'à ce que j'arrive à l'INSEP, j'avais encore cette carte dédicacée dans ma chambre.
Ok.
Et en fait, quand je suis arrivé à l'INSEP, je me suis dit, bon, allez, ça suffit les bêtises. Maintenant, ça devient un adversaire. Donc, cette carte est toujours précieusement dans une petite boîte en Guadeloupe.
Ok.
Et en fait, voilà. Et en fait, quand je suis rentré à l'INSEP, il a tout de suite compris d'où je tenais mon style de jeu. Donc, il m'a un peu pris sous son aile, il m'a prodigué de nombreux conseils. Et puis, pour la petite histoire, sa dernière médaille en championnat a été ma première médaille. C'était au championnat d'Europe par équipe en 2012.
D'accord, ok. Ah ouais, donc vous avez vraiment un destin croisé à 100%, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en plus, c'est moi qui ai pris un peu sa place aux Jeux Olympiques en 2012. On était un peu en concurrence.
Ok,
Donc, ouais, c'est
d'accord.
vraiment un passage de flambeau.
Ok, ça marche. Ça roule.
Et on est toujours en contact. Et voilà, je sais que c'est quelqu'un sur lequel je peux compter au quotidien.
Bon, bah, c'est cool, en tout cas, ça fait c'est sympa de lui rendre hommage de cette façon et ça doit être plutôt gratifiant vu la qualité vu la qualité de ton palmarès et de ton parcours. Je pense que c'est plutôt sympa de lui rendre hommage. Est-ce que tu avais enfin, où est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Dans 10 ans, alors je me vois dans 10 ans, je me vois, moi j'aimerais bien faire vivre à moitié en Guadeloupe, à moitié en métropole, c'est-à-dire faire 6 mois, 6 mois,
Ok.
et bosser dans un truc qui me plaît, donc peut-être dans la communication, peut-être communication digitale, enfin voilà, faire un boulot qui me plaît, un boulot qui me permet de voyager, qui me permet de bosser, pas forcément à distance, mais en tout cas pas de pointer tous les jours au bureau de 8h à 19h.
Ok, ça marche, ça roule. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur?
Bah, en fait, peur, tu veux dire en termes général ou dans le sens sportif?
Dans le sens général, comme tu le sens, comme tu sens.
Bah, dans le sens général, j'ai pas grand chose qui me fait peur. C'est sûr que maintenant que j'ai une petite fille, en fait, ben
Ouais.
voilà, j'ai c'est pas des peurs, tu vois, mais j'essaie de faire en sorte qu'elle soit le mieux armée pour la vie, quoi.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Je voulais savoir, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Est-ce que tu t'en souviens?
Ouais. Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'était en 2013. Ouais, c'était en 2013. J'étais un peu dans une impasse niveau escrime, mais en fait, c'est mon entraîneur de l'époque qui m'a donné un conseil tactique. En fait, vu que je suis très grand, j'avais tendance à tirer vachement de loin. Et en fait, tous mes adversaires se servaient de ça pour me piéger, me contrer. Et en fait, il m'a dit, ben voilà, maintenant, il faut que tu apprennes à tirer à petite distance. Je sais que tu n'aimes pas ça, je sais que ce n'est pas forcément facile avec ta taille, mais il faut que tu l'apprennes. Et pendant 2 mois, c'était très difficile. Je me suis forcé à tirer à petite distance. Et en fait, la saison d'après, en fait, j'avais emmagasiné ça, j'avais digéré pendant l'été. Du coup, j'étais beaucoup plus à la petite distance, ce qui m'a permis, en fait,
Ok.
d'alterner. C'est très simple, la première compétition de la saison, je la gagne. La première Coupe du Monde de la saison, je la gagne. Et c'est un peu ce qui a lancé ma carrière internationale.
Ok, d'accord. Ouais, donc un changement de style de jeu et d'apprendre
Ouais.
à progresser sur les points faibles, quoi.
Ouais.
Ok, trop cool. Qu'est-ce qu'on trouve comme musique dans ta playlist?
Alors, on trouve beaucoup de tout, mais après, j'ai plusieurs playlists. C'est-à-dire, j'ai une playlist quand, je sais pas, j'essaie de m'endormir, une playlist quand je suis me flécher tranquille, un truc un peu plus calme. Donc j'ai une playlist de musique classique, j'ai une playlist de musique un peu plus calme, musique alternative. Et par contre, la playlist que j'écoute le plus souvent, c'est une playlist où il y a des sons qui bougent. Je suis un peu hyperactif dans le sens où Ouais, je suis tout le temps en train de faire quelque chose, donc c'est beaucoup de rap, de hip-hop, ouais, vraiment que des trucs qui bougent.
D'accord, ok. Ok, génial. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a influencé dernièrement?
Dernièrement, j'ai regardé un film sur Netflix qui s'appelle Uncut Gems.
D'accord.
Uncut Gems, je sais pas comment ça se prononce. C'est un film de réalisateur qui s'appelle c'est deux frères, les frères Safdie. Et
Ok.
c'est avec Adam Sandler. Je sais pas si tu vois qui c'est un acteur américain qui joue dans plein de comédies à la con.
Ouais, je vois très bien, ouais, je vois très très bien
Bah,
qui c'est.
ouais, bah en fait, il joue un rôle dans lequel on n'attend pas du tout. C'est le rôle d'un bookmaker. Bref, qui a une énorme opale en fait, et qui la prête à Kevin Garnett qui joue dans le film. Et en fait, il y a une sorte de petite descente aux enfers, et le film est super haletant. C'est-à-dire, il dure 1h30. Pendant 1h30, t'arrives pas à décrocher. Il est super beau aussi, c'est-à-dire que la réalisation est super. Enfin, c'est filmé caméra au point et tout. En fait, j'ai pas pu décrocher. Et en fait,
Ok.
après, j'ai téléchargé toute la filmographie de ces réalisateurs-là, et je suis en train de m'y plonger là.
Ok, d'accord, génial. Ouais, donc comment dire, un addict de cinéma. T'es quelqu'un qui aime beaucoup.
Ouais, bah l'internat. Hein.
Ok.
L'internat, franchement, j'ai regardé un nombre de séries et de films incommensurables.
D'accord, ok. C'était quoi, enfin, t'as quelques autres noms à nous citer?
Ouais, bah, film et livre, Le Seigneur des Anneaux. Je suis un
Ok.
gros geek du Seigneur des Anneaux.
Ok.
Franchement, je l'ai lu deux, trois fois, et la version longue, tu sais, j'ai un gros pavé de 1269 pages très précisément, qui le truc, enfin, franchement, c'est incroyable la richesse de l'œuvre de ce mec-là, Tolkien. Enfin, il a
Ouais,
inventé
c'est
des
clair.
langages, des arbres généalogiques. Ça, c'est un truc de fou, c'est un truc qui me passionne. Mais voilà, donc Le Seigneur des Anneaux en termes de livres et de films. Et sinon, en termes de bouquins, au début, en fait, j'ai toujours beaucoup lu, déjà très jeune.
OK.
Et depuis que je suis un peu plus adulte, j'ai beaucoup lu de littérature française. En fait, depuis que je suis un peu plus adulte, j'ai lu beaucoup plus de littérature anglo-saxonne, parce que le style français m'a un peu fatigué. C'est les longues phrases, les longues tournures de phrases, etc. Alors que les anglo-saxons vont un peu plus droit au but.
C'est
Et donc,
vrai.
un livre que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps s'appelle Le Bûcher des Vanités, de Tom Wolfe, écrit avec un W.
Ok.
Et voilà, ça raconte l'histoire d'un. Je me souviens plus trop, mais c'est un homme d'affaires, je crois, avec une sorte de descente aux enfers, qui est courtier à Wall Street, etc.
Ok, d'accord. Bah écoute, je note, ça me donne envie en tout cas d'en parler avec passion, donc je me le note et je vais l'ajouter sur mon. Dans ma booklist
Ah bah
pour
c'est
ma prochaine
vachement cool ce
commande.
livre.
Allez, ça marche. Bah du coup, j'arrive à la dernière question. Comme je te le disais, c'est la tradition, c'est un peu un passage de flambeau
Ouais.
et qui est du coup plutôt un passage de micro. Qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer? Est-ce qu'il y a un sportif qui t'a inspiré, que tu connais et que tu me recommandes d'aller interviewer?
Ouais, alors faut absolument que tu aies interviewé. C'est pas une recommandation, c'est une obligation.
D'accord, génial, j'adore.
Faut absolument que tu aies. Après, j'espère que tu l'as pas encore fait, hein, mais il faut absolument que tu aies interviewé Reynald Lamothe.
D'accord, ok. Bah, trop marrant parce qu'on m'en a parlé hier, même on m'a recommandé d'aller l'interviewer aussi hier. Ok, trop cool. Pourquoi est-ce que tu veux que j'aille la
Ouais.
voir?
Bah, en fait, c'est devenu une pote, hein, mais c'est une sportive super inspirante. En fait, ce que j'adore avec elle, c'est qu'elle est totalement, elle est super authentique sur ses réseaux sociaux. Enfin, tu verras comment elle communique, elle est super authentique. Elle s'en fiche entre guillemets, elle montre juste la Reynald Lamothe en vrai, en fait. Il n'y a pas de faux semblants, etc. Et puis, c'est quelqu'un de très, très intègre aussi, qui dénonce beaucoup le dopage dans son sport. Et
Ouais.
puis sa discipline est très difficile. Elle fait du 800 mètres.
Bien sûr, ouais.
Bah c'est la meilleure française sur 800 mètres en ce moment. Et puis elle a eu des périodes pas forcément très très faciles à vivre. Je te raconterai mieux que moi, mais les Jeux Olympiques ont été très compliqués à Rio 2016. Et
Ouais,
en
j'ai
fait,
cru
depuis
comprendre.
janvier, elle a fait un changement à 180 degrés au niveau de sa carrière, c'est-à-dire qu'elle s'entraînait avec son entraîneur de ses débuts à Fontainebleau. Et en fait, elle a décidé de déménager à Montpellier pour rejoindre un groupe d'entraînement. Et voilà, elle a pris cette décision en 10 jours. Et je trouve
Ok.
que cette décision, c'est quelque chose qui l'a définie vachement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vrai, c'est impulsif, mais qui a pas peur de prendre des décisions fortes pour y arriver.
Ok, d'accord. Bah écoute, merci beaucoup de la recommandation. Je vais m'empresser d'aller la contacter sur Instagram et lui
Je te
demander
ferai un petit
si.
message d'introduction, je lui dirai que tu viendras la voir.
Ah bah avec grand plaisir, c'est super sympa, c'est trop cool. Merci beaucoup Enzo, en tout cas c'était franchement j'ai adoré cette interview, j'ai beaucoup aimé ta personnalité, ta façon dont tu vois les choses. T'es aussi sympa bah, au téléphone que tu as l'air sur les réseaux sociaux, donc ça fait vraiment plaisir de voir des aussi grands champions que toi qui restent humains, accessibles et qui se prennent pas trop la tête. Donc franchement, merci pour ton temps, merci pour tout. Et écoute, bah, je te souhaite plein de belles choses pour l'avenir en tout cas.
Ouais, mais merci à toi de m'avoir contacté. C'est sûr que, comme tu dis, tu m'as vu à travers les réseaux sociaux. En fait, c'est pas forcément facile de parler de tout via les réseaux sociaux, surtout via Instagram, qui est mon réseau social de prédilection, surtout par l'image. Donc, c'est sûr qu'à travers ta plateforme, un peu plus s'exprimer et découvrir un peu plus bah, qui sont les êtres humains, entre guillemets, derrière les sportifs.
Ok, ça roule. Merci beaucoup Enzo, à une prochaine.
Ok, merci Bart. Salut,
Salut.
ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.